Culture sans frontières, Magdalena Hrozinková.
Culture sans frontières. Je reçois aujourd'hui deux reporters de guerre français venus récemment à Prague qui représentent deux générations de photographes différentes, Patrick Chevel et Sarah Caron. Patrick Chevel est l'un des reporters de guerre les plus reconnus dans la profession. Il a passé une semaine avec des étudiants tchèques en journalisme et a présenté devant la salle archi-pleine de l'Institut français son film documentaire « Rapporteur de guerre », film qu'il avait tourné après la première guerre en Tchétchénie.
C'est pas le conflit qui m'a le plus marqué, non. C'était un conflit très fort, mais les conflits se ressemblent tous. C'est pas pour ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté la photo, j'ai juste changé de moyen d'expression. Je suis retourné en Tchétchénie plusieurs fois depuis, mais en caméra. J'en ai juste eu marre de faire de la photo, tout simplement. J'avais l'impression de faire la même photo tout le temps. Et ça faisait quand même 30 ans que je faisais de la photo. Donc je me suis dit, je vais raconter l'histoire de la guerre et de la souffrance des hommes et de l'injustice et de tout ça, mais avec un moyen plus élaboré ou différent. C'est tout. J'aurais pu faire de la radio ou de la caméra. J'ai essayé de faire de la caméra, qui est une forme de photo radio. Donc le son me manquait à un moment donné.
Rapporteur de guerre, rapporteur parce qu'il rapporte la guerre avec eux, est un dialogue passionnant entre Patrick Chevel et ses amis journalistes. Celui qui a lui-même couvert le Vietnam, le Panama, le Liban, l'Afghanistan, pose à ses collègues du métier des questions parfois dérangeantes. Un reporter de guerre doit-il intervenir, s'il le faut, dans le conflit? Quel est le sens de ce travail? Comment répondre aux exigences des agences de presse? Et pourquoi, en fait, devient-on photographe de guerre? Patrick Chevel.
Bien sûr, on s'est tous posé cette question à un moment donné, donc comme j'avais pas envie d'y répondre, je leur ai demandé d'y répondre. Ils m'ont d'ailleurs tous engueulé en me disant « t'es vraiment un salaud, tu nous demandes de répondre à ta propre question ». J'ai dit « bah vous êtes pas obligé d'être dans le film ». Mais ils sont dans le film, donc c'est leur problème. Donc ils essayent d'y répondre, mais ce que j'aime dans ce film, c'est qu'ils répondent pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de vraie réponse, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qui est important, c'est il y avait plusieurs raisons à ce film. J'en avais un peu marre de faire de la photo, et il y avait pas mal de jeunes photographes qui me demandaient ce que je pensais de la photo, et j'arrivais pas trop à y répondre à ce moment-là. On a besoin de la relève, on a besoin de jeunes qui prennent l'avant, parce que dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués ou blessés ou tués, et qu'à un moment donné, ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous remplace. Et je pensais que c'était un bon moyen de présenter ces photographes en pleine forme, qui racontent leur passion, parce que c'est avant tout une passion, et de montrer qui étaient les gens derrière les photos, parce que personne ne le savait. Et au départ, ils ont tous dit non, parce que ce sont des gens plutôt timides, et c'est leur métier, c'est pas d'être vu, c'est de montrer les autres. Mais en même temps, ils ont fini par dire oui, parce qu'ils préféraient que ce soit fait par un collègue à eux, que quelqu'un qui n'y connaît rien et qui fait un mauvais film, trop cliché sur les photographes de guerre. Et une autre raison pour faire ce film, c'était à l'époque où il y a eu le scandale Lady Di, et tout le monde a dit que c'était des photographes de presse qui avaient provoqué sa mort en poursuivant la voiture. Alors ça, c'est la branche paparazzi. Moi, je ne suis pas paparazzi, mes amis non plus. Je ne critique pas les paparazzi, je n'y pense même pas, je m'en fous de ce qu'ils font. Je ne suis ni contre ni pour, ça fait partie d'un milieu qui ne m'intéresse pas. Mais j'ai des copains paparazzi très sympas. Ils font plutôt rire, mais ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qui me mettait en colère, c'est que les gens fassent l'amalgame photographe de presse, vautour, etc. Donc j'ai voulu, c'était aussi une réaction à ça, montrer aux gens que photographe de presse, c'était pas un terme générique. Il y avait ceux qui font de l'art, ceux qui font du paparazzi, ceux qui font du show business, et puis les photographes de guerre qui étaient une caste à part. Pas forcément meilleure, mais à part. Puis on mélange pas tout le monde, quoi. Donc j'ai voulu aussi montrer qui étaient ceux qui faisaient ça. Parce qu'il y a un peu, c'est très facile de critiquer une photo. J'ai un copain qui s'est suicidé parce qu'il a été mal compris. Bon, il était un peu sensible. Il a fait une photo dans le Sahel. C'était un Sud-Africain. Où on voit un bébé qui est en train de mourir de faim. Et 3 mètres derrière le bébé, il y a un vautour qui attend, qui est plus grand que le bébé. Et la photo est passée partout, elle a gagné des prix parce qu'elle résume la situation d'une manière terrible. Il a reçu des milliers de lettres d'insultes. Sa fiancée l'a quitté en le traitant de vautour lui-même. C'est complètement idiot. Évidemment qu'après la photo, il faut 1/125e de seconde pour la faire. Il a vu la scène, il a tout de suite vu en très bon journaliste que c'était symbolique. Il a fait 3 photos. Ensuite, il a pris une pierre, il l'a jetée au vautour, il a ramassé l'enfant et il l'a amené au médecin pour qu'on le sauve. Évidemment, il n'a pas laissé l'enfant à côté du vautour. Donc les gens sont idiots, méchants, mal informés. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour informer les gens et essayer de donner un minimum de culture pour éviter ce genre de réaction. Mais lui, ça l'a tué.
Et vous-même, comment avez-vous commencé dans le métier ? C'était au Vietnam ?
Le premier, c'était la guerre des 6 jours, en 67. Et ensuite, je suis parti au Vietnam. J'ai commencé par rater toutes mes photos en Israël. Et ensuite, je suis revenu...
Comment ça se fait que vous avez raté toutes vos photos ?
Parce que j'avais jamais fait de photos de ma vie quand je suis parti en Israël faire des photos. Donc j'avais un appareil photo avec un bout de carton et où il y avait marqué dessus soleil, pluie, vent. Et j'ai cru que c'était facile, c'était pas facile. Donc je suis rentré à Paris, j'ai fait un stage de 6 mois dans un laboratoire. Et quand j'ai cru que j'étais prêt, je suis parti au Vietnam. Voilà, avec un aller simple parce que j'avais pas d'argent. Et après, je suis resté de 68 à 74.
À quel point les exigences des médias vis-à-vis des photographes ou des reporters de guerre ont changé durant les 35 ans de votre carrière ?
Ça n'a pas tellement changé. Il y a la vitesse de l'information maintenant qui fait qu'il faut être 2 fois plus vigilant parce qu'on n'est pas infaillible et on peut se tromper. Et aujourd'hui, si on se trompe, le moment de réaliser qu'on a fait une erreur, la photo est déjà dans tous les journaux. Avec le digital, vous faites une photo, vous l'envoyez sur votre ordinateur avec un téléphone. 10 minutes après, elle est à New York, elle est à Johannesburg, elle est à Prague, elle est à Paris. Et si une heure après, vous dites, merde, je me suis fait manipuler, en fait, le type ne fait pas, enfin, c'est pas vrai, c'est trop tard. Alors qu'avant... On avait des films, il fallait ensuite trouver un aéroport, envoyer les films. Le lendemain, on appelait l'agence pour savoir si les films étaient bons. Ils développaient les films et ensuite, ils envoyaient ça par courrier à tous les journaux. Donc, on avait au moins 3 jours pour réfléchir si on avait bien fait de faire cette photo-là. Parce qu'évidemment, il y a toujours le piège de la manipulation. On sait pourquoi on nous empêche de faire des photos quelquefois. La censure ou l'armée américaine qui nous emmerde en Irak... ou l'armée israélienne ou l'armée russe qui dit non, 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 zone interdite. Ça veut dire qu'on est efficace, parce que sans ça, pourquoi ils nous empêcheraient, ils essaieraient de nous empêcher. Donc, ça veut dire qu'on a raison d'insister. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi quelquefois on nous laisse faire la photo ? Parce qu'on se sert de nous à ce moment-là. Donc, il y a un jeu difficile, il faut essayer de comprendre et essayer de pas être manipulé. On est de toute façon manipulé, mais pas trop quand même. Et essayer de donner une image, l'image la plus neutre possible d'une situation entre la plus factuelle. C'est pas toujours simple, parce qu'on a des sentiments. Je crois pas au journaliste impartial, mais la photo doit essayer de l'être, en tout cas.
Depuis plus d'un an, Patrick Chevel travaille sur son nouveau documentaire. Il a suivi en Afghanistan, en Palestine, en Irak, la jeune photographe Sarah Caron qui travaille en digital. On l'écoute.
Au départ, ça me dérangeait parce que c'est un travail comme solitaire. J'avais peur que ça interfère aussi dans mes relations avec les gens que je photographiais. Quand on est avec un journaliste, par exemple, c'est pas tout le temps qu'on est ensemble sur le terrain. Et puis le journaliste, il part de son côté, même s'il est juste à quelques mètres, on n'est pas dans la même bulle. Là, une caméra qui suit un photographe, tout d'un coup, il est vraiment avec vous et présent. Et donc, il a commencé à filmer doucement sur des choses où il s'intéressait à l'histoire que j'étais en train de photographier. Et du coup, il s'y intéressait comme un documentariste qui va faire aussi un reportage sous forme de film. Et par moments, je rentrais dans le champ. Du coup, le photographe devenait un fil rouge pour raconter l'histoire. Ça a commencé comme ça. Et au bout d'un moment, je ne me suis plus rendu compte qu'il était là. C'est-à-dire qu'il a réussi à se glisser d'une façon tellement présente et discrète, enfin, en tout cas ne me dérangeant plus. Et le film a, ça a été fluide, quoi. Le film a commencé à prendre forme de cette façon, quoi, presque naturelle. Et maintenant, je crois que ça peut être effectivement un film intéressant pour la génération, enfin ma génération de photographes, et puis pour le public. De voir comment le métier, parce qu'entre rapporteur de guerre qui est sorti en 98 et ça, il y a quand même une époque qui a changé. Voilà, bon, maintenant le film est pas monté et là je sais pas, parce que j'ai pas vu les rushs, quoi. Je sais même pas ce qu'il y a, enfin j'ai vu qu'il était là mais je sais pas ce qu'il y a, donc je peux pas vous dire grand chose finalement. J'ai commencé à photographier en 94 en Amérique du Sud, notamment à Cuba, pendant les événements de ce qu'on appelait la période spéciale. C'était une période où le Castro avait décidé qu'il fallait que tous les Cubains se serrent la ceinture, puisque la chute du mur avait provoqué le fait que les Soviétiques n'allaient plus aider le pays. Donc à ce moment-là, l'état de l'économie cubaine est devenu dramatique, et à partir de là, Castro a essayé de résister comme il pouvait en motivant le peuple à économiser sur tout. Donc s'en est suivi une période terrible, et ça a éclaté en août 95, où là les Cubains sont partis par centaines sur des petites embarcations construites avec un jean pour faire la voile, un morceau de bois pour faire l'embarcation. Et donc moi j'étais à Cuba à ce moment-là et j'ai commencé à faire la photo sur cet événement. Voilà, et ensuite les photos ont été publiées et j'ai commencé à être photographe de cette façon. Voilà.
Et avant, vous avez étudié le journalisme ?
Pas du tout, j'ai fait une fac de lettres. Quand j'ai eu envie de faire ce métier, il y avait des éléments forts qui me motivaient. Raconter des histoires, les histoires des gens, pas forcément au cœur d'un événement historique, mais même une anecdote d'un groupe de personnes m'intéressait. Tout m'intéresse dans les histoires des gens. Ensuite, il y avait l'expression artistique à travers la photographie. Ça donne pas mal de liberté pour faire passer des émotions. Et il y avait cette espèce de curiosité à courir le monde. Donc ces éléments-là ne m'ont jamais quitté. C'est-à-dire que j'ai pas changé en cours de route. C'est toujours la motivation. En cours de route, ce qui a changé, c'est que l'expérience a permis d'avoir une vision journalistique du monde. Et donc du coup, maintenant, ça se transforme en engagement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est nécessaire parce que justement, c'est de plus en plus difficile. Alors le risque, ça serait d'arrêter sous prétexte que c'est trop dur. Et si on arrête, alors à ce moment-là, toutes les choses insupportables pourront se faire impunément puisqu'il n'y aura plus de témoins.
La photographe Sarah Caron, qui travaille entre autres pour Le Monde, le New York Times et Newsweek. Sarah Caron et Patrick Chevel ont été les invités de Culture sans frontières. Bonne écoute de la suite du programme de Radio Prague.